Merci d'être là. Merci à Ellie. Et vraiment, c'est un super cadeau que vous me faites tous de pouvoir partager cette semaine ici. Alors, j'ai préparé un texte, mais avant de le lire, je voudrais rebondir sur deux choses qui ont été dites hier par Jean-Christophe Godard et avant-hier par Eduardo Viveros de Castro. La première, c'est quand il était question du rapport à l'écriture et au papier. Quand je suis partie en Australie la première fois en 79, j'avais pas encore d'ordinateur, et donc j'avais des petits carnets et je notais énormément de choses. Et de temps en temps, je posais une question aux femmes Walpiri avec qui je travaillais dans le désert central et elles me disaient « c'est dans ton carnet la réponse ». Et moi, évidemment, je ne savais pas de quoi elle parlait. J'avais pris beaucoup, beaucoup de notes. Alors, par exemple, je demandais quel était le lien entre telle et telle personne ou tel et tel lieu ou le nom de tel lieu ou le nom du service. C'est dans le carnet. Et donc, ça m'est arrivé beaucoup. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté d'écrire dans mon carnet. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ma mémoire de l'espace et des gens a complètement changé. Et j'ai réussi à me souvenir et à connecter les choses entre elles. Et c'est ça qu'elle voulait dire, je crois que c'était dans le carnet, puisque c'est aussi l'expérience que nous faisons tous. Ensuite, quand on relit nos carnets, d'un seul coup, on voit des associations entre des choses auxquelles on n'a pas pensé sur le moment de la prise de notes. La deuxième chose, c'est quand Eduardo faisait référence à son ami, l'anthropologue Cohn, qui a écrit sur la forêt, qui pense, et aujourd'hui il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui montrent qu'effectivement les arbres non seulement communiquent entre eux mais prennent soin les uns des autres. Et Eduardo disait je lui ai dit, alors si tu penses que la forêt pense, les plantes pensent et tout ça, et les pierres? Et Cohn a dit non, pas les pierres. Alors, est-ce que les pierres pensent? Ça, c'est un peu la question d'aujourd'hui. Et j'aimerais, pour commencer à y réfléchir, à penser aux pierres qui sont là, dans ces bâtiments. Moi, je suis extrêmement sensible aux lieux. Et je répète, je me sens très très bien ici. Et alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que les pierres me parlent, ou bien parce qu'elles sont habitées, à la fois de tout ce qu'elles ont vécu, avec tous les habitants ou les gens de passage qui sont passés par là. Et quand je dis les habitants, évidemment, ce n'est pas seulement les humains. Ça remonte à l'histoire géologique de cette région. Est-ce que ce que je ressens, et que sûrement vous ressentez aussi chacun à notre façon singulière, c'est le résultat des traces laissées par tous ces événements? Et donc, oui, les pierres pensent en ce sens parce qu'elles ont un effet actif sur nous de nous émouvoir, de nous affecter. C'est un effet affectif, mais un affect effectif. Ou bien est-ce que les pierres pensent? Ou bien encore, est-ce qu'il y a quelque chose qui habite les pierres, qui n'est pas seulement la trace de tout ce qui est passé par là? Alors, on pourra parler de ça quand j'aurai fini mon texte. Donc je ne reprends pas le petit topo qui est sur les imprimés que vous avez tous eus, qui est un extrait, page 136-137 de maintenant, du Comité Invisible, puisque c'est ça qui m'a inspirée de parler de ce dont je vais parler. En fait, il y aura trois parties. Une partie où j'essaye de mettre en parallèle ce que j'ai appris, c'est pas tant que ce que j'ai appris, c'est ce qui m'a affectée en rencontrant les aborigènes, et ce qui aussi m'a traversée depuis les cours de Deleuze que j'avais suivis à Vincennes et les lectures que j'ai faites à l'époque, c'était l'anti-Oedipe et Rhizome, déjà quand j'étais en terminale, en philo, puisqu'on était après 68 et donc on nous parlait de Deleuze au cours de philo de terminale. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de profs de philo qui font ça aujourd'hui. Voilà, et c'est dommage parce qu'il faudrait le refaire. Alors, c'est la première partie. La deuxième partie, ce sera des extraits que je vous lirai d'un entretien que j'ai fait avec un chaman aborigène qui s'appelle Len Sullivan, qui était invité au festival de chamanisme de Génac en avril dernier. Et la troisième partie, je voudrais discuter de réparation, du mouvement de la réparation à travers le monde pour tous les traumatismes de l'histoire et puis toutes les vulnérabilités d'aujourd'hui. En discutant en particulier une féministe qui s'appelle Rosie Braidotti. J'y vais. L'attachement à la terre peut s'inscrire dans la filiation, une logique de l'héritage, de la transmission, de l'allégeance aux aînés ou aux maîtres de la terre, toujours au risque d'un asservissement, où qu'on soit dans le monde. La logique de l'héritage foncier comme logique filiale, identitaire, peut s'affirmer aussi par la fermeture des frontières, le rejet de l'altérité, la peur des autres, leur exclusion, leur aliénation et la conquête de leur terre. Toutefois, l'attachement à la terre peut aussi relever d'une autre logique, celle de l'alliance, toujours à renégocier, à rejouer, par des pratiques qui réactivent les liens anciens, les rompent ou en créent de nouveaux. Chez les aborigènes d'Australie avec qui je travaille depuis 1979, c'est plus de 200 peuples, hein, de langues différentes. Je ne connais pas tout le monde. Moi, je travaille dans le désert, mais j'ai aussi travaillé avec d'autres groupes sur la côte nord-ouest et nord-est. Hommes et femmes se disent attachés à des lieux particuliers, au nom de liens spirituels qu'ils entretiennent avec une multitude d'entités qui agissent sur leur vie et celle de la terre. Ces entités sont considérées comme, c'est comme ça que je les traduis, des images-forces. En Walpiri, la notion, c'est kuruwari. Et dans chaque langue, il y a des notions équivalentes. Et donc, à partir de maintenant, on dira image-force. Singularisée dans des lieux et incarnée par toutes les manifestations de la vie, humaine ou non humaine, animaux, plantes, vent, pluie, étoiles. Ça veut dire que tout ça partage les mêmes images-force. Non pas l'ensemble des animaux, des plantes, du vent, de la pluie, des étoiles, mais certains humains, avec certains animaux et aussi certains types de vent, certaines étoiles, etc. Donc chacun d'entre nous, homme ou femme, est une constellation d'images-forces qu'il partage avec des non-humains. Et chacun a sa constellation. Le commun de la matière et des images-forces s'agence dans des relations différenciées que chaque humain entretient avec des lieux particuliers. Ces relations reposent sur une topologie géospirituel très complexe. Si chacun est affilié à des lieux et à des images-forces associées, il ou elle doit entretenir des relations d'alliance avec d'autres lieux, correspondant à d'autres images-forces que sa constellation. Les alliances s'actualisent aussi bien par des mariages entre humains, puisqu'on se marie dans une autre constellation que la sienne, que des rituels où les gardiens de certaines images-forces, par exemple celles des graines, doivent être assistés par des gardiens d'autres images-forces, telles pluie et vice-versa. Chacun, chacune, est ainsi maître de sa terre et de ses images-forces héritées, mais doit tenir le rôle de manager, c'est comme ça que les Walpiri et les autres groupes du désert ont traduit leur terme Kodungulu, à l'égard d'autres terres et images-forces auxquelles il est virtuellement allié, du fait des alliances passées par les ancêtres, accrochons-nous, totémique de chaque série d'images-force. Quand je dis ancêtre totémique, on a l'habitude de penser aux animaux et aux plantes. Mais en fait, tout ce qui est nommé dans ce que nous appelons la nature et la culture peut faire office de principes totémiques, tels le peuple pluie, les hommes arbres, les femmes bâtons à fouir ou les mieux géants, ou invincibles, les hommes boucliers, car tous les mots sont pensés comme des agents actifs qui pensent et rêvent. Tous les mots sont pensés comme des agents actifs qui pensent et rêvent. Totem est un terme imposé par l'histoire de l'anthropologie qui l'a emprunté aux Algonquins d'Amérique du Nord pour universaliser de manière comparative le lien spirituel avec de non-humains observés aux quatre coins de la planète, dans des pratiques et théorisations indigènes très, très différentes. Les aborigènes, qui à la colonisation de l'Australie il y a un peu plus de deux siècles, hein, c'est beaucoup moins long que les Amériques, Se distinguer sur le continent par des centaines de langues différentes ont des termes propres pour désigner leurs liens spirituels avec de non-humains, comme, en Walpiri et dans les autres langues du désert, Chukurpa, qui signifie littéralement « rêve ». La complexité de ces concepts aborigènes a été subsumée en anglais dans la notion de « dreaming », ING, qu'on a du mal à traduire en français parce qu'il faudrait dire « le rêvant ». Alors on pourrait, moi j'ai failli faire ça quand je suis rentrée d'Australie, j'ai voulu faire ça. Et Laure Adler, appelons, qui a publié donc dans sa collection de l'époque en 89, « Les rêveurs du désert », m'a déconseillé, elle m'a dit « rêve, ce sera plus parlant pour les gens ». La complexité de ces concepts aborigènes a été subsumée donc en anglais par dreaming et est devenue en français rêve avec un R majuscule, c'est la convention qu'on trouve un peu partout. Chacun est dit incarner un ou plusieurs rêves. Pour les uns, c'est le rêve wallaby et graine. Pour d'autres, le rêve des deux hommes qui se transforment en tornade, ancêtres des chamans. Ou encore le rêve des femmes bâtons à fuir qui vivaient sans hommes. Ces rêves sont d'abord des parcours, les lignes de voyage ancestraux d'êtres hybrides qui ont donné forme au paysage en laissant sur le continent des traces de leur passage sous forme de lieux nommés, trous d'eau, collines ou rochers. Alors si je vous dis « femme bâton à fuir », vous imaginez quoi ? Une femme bâton à fuir. L'imagination est ouverte. Eh bien en fait, les aborigènes ne les décrivent pas, vraiment. Si je dis homme-arbre, il se métamorphose tout le temps. Quand ils sortent de terre, il y a des branches qui poussent à leurs pieds, à leurs chevilles, qui les dépassent. Et puis ensuite, ils se mettent à marcher, les branches tombent. Parfois, ils sont humains, parfois, ils deviennent des lianes. Voilà. Et ben, c'est vrai de tous les rêves totémiques. On va dire rêve wallaby ou rêve émeu. Rêve émeu, l'émeu géant, et bien en fait, les traces dans le sol identifiées au rêve émeu, qui est partagé par au moins une quarantaine de groupes de langues différentes, depuis le désert central, plutôt depuis la côte de l'océan Indien jusqu'au désert central, parce que le parcours est dans ce sens-là, eh bien, il y a des dizaines d'empreintes quand la mer se retire, et ce sont des empreintes de dinosaures, en forme de flèches comme ça. Hein, donc tous les oiseaux font ce genre de, pas, de traces, mais là, c'est des traces de cette taille-là à peu près, et elle s'est identifiée comme espèce de dinosaure à plumes. Donc voilà, ça par exemple, c'est le rêve de l'émeu géant. Mais le rêve de l'émeu, quand il va être raconté et chanté, et ben, ça va aussi concerner différentes espèces d'émeus, voilà, et particulièrement le fait que tous les émeus, ce sont les mâles qui couvent les œufs. Donc le rêve de l'émeu, c'est le rêve des mâles qui s'occupent de la couvade des enfants. Ces rêves sont d'abord des parcours. Donc, c'est aussi les images forces, la texture singulière de chaque humain qui peut dire « mon rêve ou mon image force est igname. Je suis igname. » Donc là aussi, il y a une multitude d'ignames. C'est-à-dire, mais surtout, les ignames poussent en réseau, en rhizome. Donc je suis, si quelqu'un dit « mon rêve est igname », je suis un rhizome. C'est-à-dire, je porte en moi le devenir des ignames comme espèce, comme humain et comme série de lieux. La topologie terrestre des aborigènes du désert n'oppose pas le dedans souterrain et l'au-delà des dimensions parallèles. Les parcours des êtres du rêve qui ont voyagé sur Terre, disparus sous Terre, se retrouvent en miroir dans l'espace interstellaire et galactique. Cela ne veut pas dire que les aborigènes ne font pas de différence entre le dedans et le dehors, au contraire. Les Walpiri, par exemple, ont bien deux mots, Kanunchu, dessous, distingué de Kankarlu, dessus, qui se décline avec des suffixes différents pour indiquer ce qui est dedans ou dehors au regard des différentes postures d'énonciation et de relation entre locuteurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas juste ces deux mots-là. C'est que selon que l'on est deux, un groupe, qu'on parle à une personne, deux personnes ou à plusieurs, on va articuler ça autrement. Mais ces deux mots sont aussi des concepts géotemporels qui distinguent des mondes. D'une part, le monde que nous habitons dessus, et d'autre part, une multitude d'autres mondes avec lesquels nous communiquons en rêve et aussi parfois à l'éveil quand des portails invisibles nous aspirent. Notre monde présent, avec son histoire mémorisée et son futur proche, relève donc du dessus, alors que le monde du dessous, Kanunchu, c'est le monde de la matière et de sa mémoire, une matière qui vit, pense et rêve. Les rêveurs de la terre sont multiples, à veiller sous terre, dans l'eau des sources et les pierres, mais aussi dans la pluie et les nuages, ou encore l'arc-en-ciel et la voie lactée au-delà. Partout où il y a de la matière, c'est-à-dire dans l'espace intergalactique. D'où l'effet de continuité entre l'infraterrestre et l'extraterrestre. C'est un petit peu, enfin c'est plus complexe que ça, mais c'est quand Hubert Reeve dit « Nous sommes tous des poussières d'étoiles ». Sauf que là, c'est un peu l'inverse. Le temps du rêve, dont on entend toujours parler, le Dream Time, est un espace-temps multiple. Pour imaginer cette topologie géotemporelle, il faut pouvoir se décoller de notre espace et temps linéaire, se laisser emporter dans un univers à N dimensions. Hein ? On ne les compte pas. Cet univers n'est pas non plus celui de l'éternel retour cyclique. Il y a beaucoup de gens, y compris chez les anthropologues, qui continuent à dire qu'il n'y a que deux modèles, le linéaire, le nôtre, et le cyclique, chez les peuples censés être sans histoire, mais ce n'est pas du tout ça. J'ai trouvé particulièrement pertinent de traduire à mon retour d'Australie centrale en 1979 ces concepts aborigènes, Kankarlu dessus par actuel et Kanunchu dessous par virtuel, au sens même des concepts actuels-virtuels articulés par Deleuze et Guattari. Le philosophe et le psychanalyste s'y sont d'ailleurs bien reconnus en évoquant ensuite, chacun de son côté, les réseaux d'itinéraires de rêves aborigènes que je racontais dans mes livres. C'est en 83 que Guattari me téléphona pour parler de ma thèse qu'on lui avait fait passer. J'allais découvrir à son séminaire ses cartographies schizoanalytiques en cours d'élaboration. Dans son Chaosmos en 91, il rapporte au rôle des rêves dans les cartographies mythiques aborigènes ce qu'il appelle les constellations d'univers, les constellations de valeurs ou les constellations incorporelles, qui produisent des ritournelles. On va revenir sur tous ces mots-là avec des exemples aborigènes après. Il définit par ailleurs des territoires existentiels comme une incarnation chaosmique. Hein, donc ça, c'est page 88 pour ceux qui veulent retrouver les trucs. Cette virtualisation de la matière dans le chaos résonne avec le réseau géographique des mythes aborigènes qui, sous forme de parcours, s'imbrique en un réseau de lignes narratives, chantées, dansées et peintes, qui s'entremêlent de manière invisible sur tout le continent australien. Hein, ce ne sont pas des pistes qui sont tracées comme des chemins. Tout en laissant des traces visibles, discontinues, sous forme de sites sacrés et d'empreintes visuelles dans l'espace, terrestre, la mer et le ciel. Chaque aborigène s'identifie avec certains sites et dira « la terre est ma chair » dans ces sites-là. Ce n'est pas la terre en général, hein, c'est dans ces sites où il s'identifie « la terre est ma chair ». Dans une relation de fraternité-sororité. Ces lieux peuvent aussi correspondre à une filiation paternelle, pas nécessairement celle du vrai père, plutôt une filiation paternelle plurielle, par exemple du groupe d'hommes qui va initier tel jeune homme, ou du groupe de femmes qui va prendre en charge telle jeune fille. Chacun a aussi, avec d'autres sites, soit des relations de filiation maternelle, soit de cousinage, soit de conjoint prescrit, ou encore d'alliés comme la relation belle-mère-gendre. D'accord ? Donc, vis-à-vis de tout le paysage qui entoure les lieux que vous utilisez, il y a une projection d'une famille de relations diversifiées et d'une famille d'affiliés et d'alliés. La Terre n'est donc pas une mère pour tous, car certains sont mères pour les uns et deviennent pères pour d'autres. Sœurs et frères pour les uns, cousines, cousines pour d'autres, c'est pas la même chose. Époux pour les uns et parents par alliance, dont on ne peut pas s'approcher, pour d'autres. Une cartographie déco-parenté, une forme indigène d'écosophie, le terme donc travaillé par Guattari, relie ainsi tout ce qui existe dans un système virtuel de relations diversifiées. Hommes et femmes ont pour responsabilité d'actualiser ce système virtuel de relations par des rituels. C'est-à-dire, c'est virtuel, ça peut être là, mais ce n'est là qu'à condition que les humains fassent ce qu'il faut faire. Et quand je dis ce qu'il faut faire, ce n'est pas une injonction, c'est de la création. S'ils ne le font pas, ils risquent d'être malades, physiquement ou spirituellement, tout comme les lieux seront malades, stériles de vie, mettant en danger la reproduction de tout ce qui vit, y compris l'eau et les autres principes actifs du climat, comme le vent, les étoiles. En ce sens, enfin l'atmosphère, le milieu, le collectif et l'individu sont indissociables, mais se traversent. C'est la transversalité dont parle aussi Guattari. L'écosophie de Guattari rend l'écologie environnementale indissociable en ce sens-là de ce qu'il a appelé l'écologie mentale, en référence à l'écologie de l'esprit de Bateson, et l'écologie sociale. Ce nouage des trois écologies est une alerte constante tournée vers le devenir d'agencements virtuels à mettre en œuvre, pour nous, partout sur la planète. Je cite dans Chaosmos, page 128. Au-delà des rapports de force actualisés, l'écologie du virtuel se proposera non seulement de préserver les espèces menacées de la vie culturelle, mais également d'engendrer les conditions de création et de développement de formation de subjectivité inouïe, jamais vue, jamais sentie. C'est-à-dire que l'écologie généralisée, ou l'écosophie, œuvrera comme science des écosystèmes, comme enjeu de régénération politique, mais aussi comme engagement éthique, esthétique, analytique. Analytique au sens psy. Elle tendra à créer de nouveaux systèmes de valorisation, un nouveau goût de la vie, une nouvelle douceur entre les sexes, les classes d'âge, les ethnies, les races. Page 128, Chaosmos. Guattari cartographie les tensions des univers, virtuels et possibles, et des territoires existentiels, virtuels et réels, avec les flux réels et actuels, et les phylums machiniques actuels et possibles. Donc vous avez, il y a quatre mots. Actuel, virtuel, possible, réel. Et ça donne ce qu'il appelle les quatre foncteurs de sa cartographie, qui ne sont pas un modèle. C'est une invitation pour tous à bricoler. Donc, il s'agit d'un diagramme dans ce sens-là, toujours retracé de son projet écosophique. C'est à ce titre qu'il critique le bouclage lacanien entre réel, imaginaire et symbolique. Hélas, encore si populaire chez certains anthropologues et chez beaucoup de gens, même s'ils ne se disent pas lacaniens. Les structuralistes, dit Guattari, toujours dans Chaosmos, page 110-111, les structuralistes ont été trop hâtifs en positionnant topiquement le réel de la psychose par rapport à l'imaginaire de la névrose ou au symbolique de la normalité. Qu'ont-ils gagné à cela ? En érigeant des mathèmes universels du réel, de l'imaginaire et du symbolique, considérés d'une pièce, chacun pour eux-mêmes. Ils ont réifié, réduit la complexité de l'enjeu, à savoir la cristallisation, un concept essentiel, et chez Guattari et chez Deleuze, d'univers réel virtuel, agencé à partir d'une multiplicité de territoires imaginaires et sémiotisé par les voies les plus diverses. Les complexions réelles, celles par exemple de la quotidienneté, du rêve, de la passion, du délire, de la dépression et de l'expérience esthétique, ne sont pas les unes et les autres de même couleur ontologique. Moi, personnellement, j'utilise son diagramme, enfin le jeu entre les quatre foncteurs, comme un origami, en pliant en diagonale les flux sur les univers, les territoires sur les phylums, et à partir de là, ça m'aide à réfléchir. 2 ans après la sortie de Chaosmos et la mort de Félix, Deleuze écrit dans Critique et Clinique. Un voyage réel manque par lui-même de la force de se réfléchir dans l'imagination Et le voyage imaginaire n'est pas lui-même la force, comme dit Proust, n'a pas la force de se vérifier dans le réel. Le voyage imaginaire n'a pas la force en lui-même de se vérifier dans le réel, disait Proust. C'est pourquoi l'imaginaire et le réel doivent être plutôt comme deux parties juxtaposables ou superposables d'une même trajectoire, deux faces qui ne cessent de s'échanger, miroirs mobiles. Ainsi, les aborigènes d'Australie joignent des itinéraires nomades, c'est Deleuze qui le dit, et des voyages en rêve qui composent ensemble un entremaillage de parcours dans une immense découpe de l'espace et du temps qu'il faut lire comme une carte. Donc là, il se réfère à mon livre « Du rêve à la loi ». À la limite, continue-t-il, l'imaginaire est une image virtuelle qui s'accole à l'objet réel et inversement pour constituer un cristal d'inconscient. Cristal, cristallisation. Et ça, c'est très très important pour tous les chamans du monde. Eduardo a écrit un texte magnifique qui s'appelle « La forêt de cristal ». On va peut-être en parler tout à l'heure. Il ne suffit pas que l'objet réel, le paysage réel, évoque des images semblables, voisines. Il faut qu'il dégage sa propre, et c'est en guillemets dans le texte, non pas en guillemets, excusez-moi, en italique, image virtuelle. L'objet réel doit dégager son image virtuelle. En même temps que celle-ci, comme paysage imaginaire, celui dont on se souvient aussi, ou qu'on oublie, s'engage dans le réel, suivant un circuit où chacun des deux termes poursuit l'autre, s'échange avec l'autre. Entre guillemets, la vision est faite de ce dédoublement, cette coalescence. Donc pas la vision là où on se regarde. La vision dont Eduardo parlait hier. Godard parlait hier. Les regards qui pensent entre nous. C'est dans les cristaux d'inconscient que se voient les trajectoires de la libido. Chez tous les groupes des déserts australiens et d'autres de la forêt et du littoral nord, chaque individu, avant même de naître, est pensé comme la virtualité d'un vers chanté, quelque part dans la terre, attendant de s'actualiser. Ce vers de chant, verset, s'actualise dans un futur bébé en attrapant ses parents, par séduction. Vous allez à la chasse ou à la collecte de fruits et puis voilà, vous êtes attiré par un animal ou quelque chose et il va vous jouer un tour. C'est un esprit enfant séducteur qui se matérialise dans une nourriture végétale ou un animal que la mère ou le père trouve et consomme. L'identification totémique de l'esprit enfant et de son lieu particulier se fait par le père, la mère ou quelqu'un de leur entourage, qui n'est pas du tout de la famille directe, qui revoit en rêve un événement que les parents ont vécu. Donc c'est une interprétation, comme une espèce de processus de détective pour savoir d'où vient l'enfant qui va naître. Le vers chanté de l'esprit enfant est condensé dans un prénom qui est à la fois le nom du lieu où il est identifié d'avoir choisi de venir et de la personne qui l'incarne. En général, ce prénom doit rester secret parce que celui qui le connaît peut le chanter, soit pour séduire la personne, soit pour lui faire du mal. Les Walpiri disent des esprits enfants qu'ils sont ngampurpa, désirants de naître. À la mort d'une personne, son esprit enfant retourne dans la terre et attend de s'incarner à nouveau. Concevoir un vers chanté comme un agent virtuellement là, dans un lieu, en attente de s'actualiser comme fœtus humain, pour se revirtualiser à la mort ensuite dans le même lieu, illustre à la fois la ritournelle de Guattari et ce que Deleuze a appelé le processus de revirtualisation, la cristallisation. La cristallisation revirtualisante consiste ici à ce que la mort d'une personne conduise son esprit enfant dessous, dans son lieu d'émergence, en attente d'un nouveau passage dessus, pour s'actualiser et se déterritorialiser le temps d'une nouvelle vie humaine. En ce sens, par exemple, le fait que le fœtus soit vivant avant de naître, l'avortement ne gêne absolument pas les aborigènes, puisque de toute façon, l'esprit enfant est autonome. Le passage dans le corps humain n'est qu'une médiation. Mais par contre, la personne ne se réduit pas à un corps de cet esprit-là. Elle est habitée par beaucoup d'autres choses, une fois qu'elle est née et qu'elle parcourt sa vie. Ça ne veut pas dire donc que les humains se réincarnent. l'esprit enfant vers chanté territorialisé est seulement un aspect de la personne. Pour les Walpiri, l'esprit enfant est ce qui a permis au bébé de parler et marcher. C'est la capacité d'articuler le corps et les mots. Mais un individu est aussi habité par des images fortes et un autre esprit qui se détache du corps pour voyager dessous, à la fois en rêve et à la mort. Prendre soin de la terre, c'est mettre en œuvre la capacité de revirtualiser la vie. L'enjeu des rituels n'est pas de rendre un culte à des entités divines, mais de célébrer les parcours que les êtres du rêve ont effectués pour les réactualiser, les inacter, dirait Varela, l'inaction, l'émergence, en s'identifiant à eux le temps du rituel. Ainsi, hommes et femmes incarnent tel ou tel rêve en étant peints sur le corps, avec les lignes de voyage et les sites où ces êtres se sont arrêtés. Donc on peut être peint avec le rêve de avec la constellation de rêve de quelqu'un d'autre. Ce voyage qui est retracé aussi par les chants et les danses. Exécutés séparément par les hommes et les femmes, ces rituels prennent soin des sites géographiques en prenant soin des images forces qui s'actualisent dans des lieux, des humains et dans tout ce qui vit. Le rôle des hommes et des femmes diffère un peu ici. Les femmes, par leur rite du dessus, actualisent. On dit que les femmes ont pour responsabilité le dessus, Kankarlu. Ce qui est très amusant, parce que dans les premières rencontres avec les féministes, notamment de Psyché Po, mais d'autres aussi au début des années 80, et le paradigme d'un certain féminisme, c'est de dire que les femmes sont liées à la nature. Enfin, qui est aussi le paradigme hérité de l'Occident. Des visions philosophiques occidentales. Eh bien, ici, pour les aborigènes, les femmes sont chargées de ce que nous appellerions la culture, l'actualisation. Mais ce n'est pas la culture séparée de la nature, puisque tout ce qui est vu par nous comme nature est leur culture aussi. Donc, les femmes sont chargées du dessus, d'actualiser, c'est-à-dire de répandre les énergies vitales de la fertilité qu'elles font émerger du dessous. Et les hommes, eux, par leur rite du dessous, virtualisent les mêmes images forces pour qu'elles puissent à nouveau s'actualiser. Des Walpiri m'ont dit que la polarité complémentaire, donc de ce travail d'actualisation et de virtualisation, des processus rituels masculins et féminins, relève d'un ordre similaire à ce qui se passe pour créer de l'électricité. Dans leurs rituels respectifs, hommes et femmes se donnent des attributs par ailleurs complètement transgenrés. Et quand je dis transgenré, ce n'est pas juste que des hommes deviennent des femmes, quand par exemple ils jouent le rôle d'héroïne féminine dans leur rite, ou que des femmes deviennent des hommes quand elles jouent le rôle de héros masculin dans leur rite, mais c'est qu'il y a une multitude de genres. Parce qu'un homme émeu, ce n'est pas la même chose qu'un homme serpent. Une femme étoile, ce n'est pas la même chose qu'une femme liane. À chaque fois que les personnes sont peintes, chantent et dansent, il y a actualisation des images forces de tel ou tel rêve totémique. Donc c'est par la peinture, le chant et la danse qu'on actualise. Les rituels mettent les Walpiri dans un état second, où hommes et femmes disent entrer dans l'espace-temps virtuel du rêve de ses parcours, au moment de l'émergence des événements qui ont façonné le paysage toujours en devenir. Et j'insiste sur cette notion d'état second. Je ne dirais pas d'état altéré de conscience, comme on dit en anthropologie, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la conscience. En tout cas, il y a quelque chose de perceptible au niveau de participer à ces rituels, comme si on était un peu défoncé. Sauf qu'on n'a rien pris. C'est juste qu'il y a une autre manière de bouger dans l'espace. Comme si il y avait des tas de choses dans l'espace que nous ne voyons pas, mais qu'on prend en compte en soulevant un pied ou en tirant la main. Voilà. Et ça n'empêche pas les gens de rigoler, de manger, de parler avec les enfants, de pousser les chiens. Bon. Dans les rites féminins, on peint sur la poitrine les images forces sous forme de lignes figurant les parcours des êtres de tel ou tel rêve. Ces lignes relient des cercles qui indiquent des sites sacrés ou des objets qui s'impriment au sol sous forme de ronds. Les lignes sont droites ou sinueuses, continues ou discontinue, selon le référent du rêve qui est cartographié. La pluie sera évoquée par des lignes parallèles, mais pour l'eau qui ruisselle dans un lit de sable, les lignes seront sinueuses, comme pour indiquer le déplacement d'un être qui ondule. Donc on n'est pas dans la représentation, hein, c'est la trace. Le signe qui est utilisé, c'est celui qui fait trace. Les petits demi-cercles indiquent la trace des personnages assis, quelle que soit leur forme, humaine ou non. Tous ces signes sont polysémiques. L'enjeu ici, qui intéressait Guattari, est que les images sont asignifiantes. C'est-à-dire, ce qui importe, ce n'est pas qu'elles ont un signifiant. Hein, c'est ça que je veux dire par pas de représentation. Elles ne relèvent pas du symbolique. Hein, moi, vous pouvez remarquer, si vous lisez mes travaux, je n'interprète jamais rien en termes symboliques. Pour moi, les mythes et les rites ne sont pas symboliques de ce que font les gens. Ils sont. Ils agissent. On n'est pas dans la métaphore. Les lignes des parcours aborigènes sont non pas des rhizomes métaphoriques, mais de vrais rhizomes, comme ceux des ignames qui poussent dans la terre. Bon, évidemment, je dis comme ceux. Et oui, parce qu'on a une image impensée. L'image force, le rêve rhizome. Mais ça n'empêche que partout où ailleurs il y a des rhizomes, ce ne sont pas des métaphores de l'igname. C'est des outils, c'est des concepts. De même, chaque rêve totémique modélise son propre concept à penser. Et ici, j'aime bien le terme modéliser. Comme on utilise en anglais, on dira pattern. Il y a un mot que pour faire un vêtement, on va utiliser un modèle, un pattern. Ben, on peut modifier le vêtement. L'émeu, par exemple, incarne donc, je vous ai dit tout à l'heure, le modèle de la couvade masculine, car les mâles couvent les œufs. Mais l'émeu est aussi devenu le trou noir dans la Voie lactée. Donc il y a une infinité d'autres choses, mais ça, ce n'est pas symbolique. C'est des lignes de récit qui vont être utilisées pour expliquer certaines choses de la vie, du cosmos. La peinture corporelle est dite entrée à travers la peau pour nourrir le corps et l'esprit. Les gestes effectués à la fin d'un rituel féminin visent à renvoyer sous terre les énergies qui ont été actualisées par la performance de l'Assemblée des femmes, ceci pour nourrir la terre, littéralement virtualiser la vie. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le rôle des hommes et des femmes était différent, n'empêche que, et les hommes et les femmes, parce qu'ils deviennent transgenres au sens multiple des genres et des espèces, font aussi le travail inverse. Donc, si au départ les femmes actualisent, il y a des moments dans le rituel où elles virtualisent, et si au départ les hommes sont vus comme ayant pour responsabilité de virtualiser, il y a des moments dans le rituel où ils doivent actualiser. Voilà. À l'inverse, lorsqu'une personne est malade, les femmes devront tirer la maladie hors du corps par une autre série de gestes rituels, en utilisant par exemple une corde de cheveux appelée matrice, littéralement, makara, objet de soins très très sacré, qui en fait était aussi utilisé comme une forme de monnaie entre différentes générations et entre différents groupes tribaux. Tirer la source de la maladie, physique ou spirituelle, est aussi la technique chamanique pratiquée par les hommes des différents groupes tribaux australiens. Je n'ai pas regardé l'heure, ça fait combien de temps que je parle ? Parce que j'en suis au tiers. Alors je vais aller plus vite. Ouais ? On y va ? Bon. Alors, en témoigne ici Len Sullivan, un ami Yalanga du Queensland. Donc c'est le désert, mais on est à peu près à 2000 km des Walpiri. Avec qui je me suis entretenue en avril dernier après l'avoir accompagné au festival de chamanisme en France, à Génac. Il raconte comment il fut soumis par les anciens à une expérience terrifiante dans une grotte où un esprit très en colère lui a rendu visite et il a dû négocier avec lui. « Tu es mon grand-père, nous sommes de la même famille, alors ne me tue pas. » C'était une nuit terrifiante et je lui ai dit « Travaille à travers moi, aide-moi à guérir les gens. » Et il est venu poser sa main sur ma main. Quand il mit sa main sur ma main, ma peur de lui est partie. Et il s'est tenu derrière moi avec son bras sur moi en tenant ma main, sur le dessus de ma main. À partir de là, je n'avais plus peur de lui. Et quand le soleil s'est levé, je savais qu'il s'était passé quelque chose de sérieux et que je pourrais toujours soigner. À partir de là, rien ne m'arrêterait. Je commençais dans ce chant, il chante, qui est venu à moi. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez retrouver cet entretien en ligne, je vous donnerai le lien. C'est un chant pour retirer les os, dit-il, des gens. Les os, c'est-à-dire des os magiques qui ont été envoyés en vous comme des sorts. Quand je touche les gens, ma main fait clic tout le temps et je tire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, plus de clic. Parfois, je ferme les yeux et je vois une rougeur là où est la maladie. Je la touche et je ferme les yeux. Et quand ça devient jaune, je sais que c'est guéri. Parfois, c'est comme si tu voyais à travers les gens. Tu peux voir où la veine de sang est bouchée, que tu dois toucher là et desserrer, faire en sorte que le sang s'écoule à nouveau dans le corps et ça marche. C'est comme des câbles. Il dit en anglais « wire ». C'est comme des câbles allant partout, toutes ces différentes couleurs qu'il voit dans le corps. Et on peut voir lesquels ont besoin d'être touchés, lesquels ont besoin d'être soignés. Alors, c'est super important ça, parce qu'il ne voit pas les organes. Okay ? Il voit des câbles. Cette description rappelle ce qu'Artaud avait nommé « corps sans organes » et que Deleuze a commenté dans « Logique des sens » de la façon suivante. Le corps sans organes s'oppose moins aux organes qu'à cette organisation des organes qu'on appelle organisme. C'est un corps intense, intensif, le corps sans organes. Il est parcouru d'une onde qui trace dans le corps des niveaux ou des seuils d'après des variations de son amplitude. Donc, c'est vraiment l'inverse du système, enfin l'inverse, c'est autre chose que le système de soins auquel nous sommes habitués. D'accord ? C'est dans le corps du désir, dans Mille Plateaux, traversé d'affect et de. C'est donc le corps du désir, hein, le corps sans organes, c'est le corps du désir dans Mille Plateaux, traversé d'affect et de devenir, machine désirante, à la fois flux et coupure. Lenz raconte ensuite comment il a soigné deux hommes ensorcelés par un os pointeur, un tout petit os de kangourou qui est pointé à distance par un sorcier ou un esprit et envoie dans le corps un mauvais sort qui peut être mortel. Cette intervention magique est souvent décidée collectivement, comme une punition pour un manquement de la loi. Les aborigènes disent en anglais qu'un tel châtiment de l'os pointeur est un payback, payback, un remboursement, une compensation que le fautif doit payer de sa santé, voire de sa vie. Lenz, le guérisseur, en anglais, ils traduisent tous les aborigènes en Australie le terme de guérisseur, ce qu'on nous on appelle, on a l'habitude d'appeler chaman, clever man. Clever man, clever, c'est-à-dire celui qui est astucieux, qui sait se servir de son savoir. Hein, l'homme astucieux, clever man. Donc, Lenz, le clever man, a dit au premier homme ensorcelé qu'il pouvait retirer son mal de lui, car il avait vu qu'il avait été pointé pour avoir couru derrière trop de femmes qui n'étaient pas pour lui. Hein ? Donc, le manquement à la loi ici, c'est le fait d'aller là où c'est pas pour lui. Et alors, Lenz raconte, je l'ai frappé dans le dos. Et sur la vidéo, vous verrez, je l'ai frappé dans le dos. Et quand j'ai frappé le dos, l'os, ce sort est parti. Et l'homme s'est senti mieux. Mais il m'a demandé, comment ça se fait que tu ne l'as pas retiré par devant ? Puisque le mal est sorti par devant. Il a frappé dans le dos. Eh bien, lui ai-je répondu, enfin, Lenz, son patient, le sort est entré par le dos, il allait sortir par devant, mais il s'est bloqué. Donc quand je l'ai poussé, l'os, le mal a traversé. En d'autres termes, pour soigner, Lenz a repris le mouvement arrêté. Il a tiré, puis coupé, la ligne de la trajectoire en devenir, qui, bloquée dans le corps, aurait pu tuer ce patient. Et l'autre homme malade, continue Lenz, j'ai sucé. C'est comme un suçon. J'ai dû sucer hors de lui tout le sang empoisonné, avant que ce truc sorte. Et j'ai pensé, ces deux gars ont la même chose, ils ont été pointés tous les deux, la même maladie, mais ils doivent être traités différemment. Et c'est là que j'ai compris que chaque personne a sa propre capacité, son propre pouvoir et ses propres âmes et esprits que vous devez utiliser en leur parlant pour les aider à se soigner, dit Lenz. Alors, quand je chante à travers le sommet de leur tête, d'où, je crois, vient l'esprit. Mais en réalité, encore l'autre jour, quand j'ai soigné cette femme à Genac, donc ici en France, en avril, j'ai touché son pied. Elle a dit « Pourquoi vous faites ça? J'ai une migraine. » Mais la migraine est partie, car je savais qu'elle avait marché sur quelque chose. Lenz regarde la caméra malicieusement. C'est ce qui arrive parfois, c'est un problème spirituel. Elle avait marché sur quelque chose, c'est un problème spirituel. Donc, quand j'ai touché la femme, je savais qu'elle avait marché sur un truc. J'ai eu comme une sorte de vision, je suppose. J'ai eu l'image d'elle marchant sur quelque chose et je l'ai vu tirer son pied. Dem. Qui ? Il dit pas qui. Et alors, quand j'ai touché son pied, je savais que c'était le bon. Oui, des choses étranges arrivent. Je souffle dans les oreilles des personnes malades, c'est pour qu'ils puissent entendre mieux les esprits. Et je souffle dans leurs yeux, c'est pour qu'ils voient mieux les esprits et les écoutent et n'en aient pas peur. Lenz, le Yalanga du désert de Boulia, qui à 12 ans fut repéré par ses anciens comme portant un don de guérison et à 14 ans fut initié dans la plus grande des terreurs, nous explique. On ne peut pas avoir peur du monde des esprits. Il y a beaucoup de choses à dire sur les esprits. Une chose que m'ont dit les anciens, ils ont essayé de me faire peur une fois, je crois, mais ça m'a aidé aussi à les comprendre. Ils ont dit que les esprits sont jaloux des vivants. Les esprits sont jaloux des vivants. Ils veulent le pouvoir des vivants pour devenir forts eux-mêmes. Donc, ils vont essayer de prendre ta vie, mais ils ne peuvent pas. Souviens-toi qu'ils ne peuvent pas. Car le vivant est plus fort que les morts. Les esprits ne peuvent pas. La maladie peut. Mais la maladie, ça peut aussi se soigner. On nous a appris ça. On me l'a dit quand j'avais environ 10 ans. Alors j'ai demandé à Lenz, tu crois que ces esprits étaient des gens qui étaient vivants avant ou est-ce différent? Il me répondit, certains sont des esprits qui vivaient avant, mais la majorité sont des esprits de la terre. Et d'habitude, je ne regarde pas beaucoup avec mes yeux. Je vois toujours avec mon mungun. Et c'est ainsi que je peux voir dans le monde des esprits. Je peux leur parler quand j'utilise mon pouvoir mungun. En anglais, il dit power. Power, mungun. Je peux leur parler. Les esprits me répondent. Et si j'essaie d'expliquer à quelqu'un, il peut penser que je suis fou, tu sais. Mais c'est comme ce verre. Nous sommes assis chez moi, dans le 20e, devant une table avec du verre. Et en dessous, il y a du bois noir. Et il dit, quelqu'un est en dessous, ici. Tu peux voir à travers, tu peux les voir. Enfin, moi, je n'ai pas vu. Il y a un mur aussi. Mais si tu utilises ton mungun, tu peux parler à cette personne derrière le mur en verre. Les autres, les gens d'aujourd'hui ne voient que le verre. Ils ne voient pas ce qui est derrière. Comme les petits Putinji et Mugai, un esprit de très grande taille. L'esprit géant appartient aussi à la terre. Il pourrait tuer des aborigènes. Mais j'ai appris que tous les esprits, même s'ils sont féroces, vous pouvez les utiliser pour vous aider. Même avec les petits hommes esprits Putinji, on a un champ pour qu'ils nous apportent du pain, de la nourriture. Lorsque vous parlez à l'esprit géant Mugai, vous vous présentez avec respect. Alors il ne vous fera pas de mal. Il vous laissera du gibier et s'en ira. Beaucoup de gens en ont peur et la première chose qu'ils font, c'est de s'enfuir. Ils ne parlent pas, ils s'arrêtent de parler. Mais j'ai remarqué que plus vous parlez aux esprits, plus vous les comprenez. Il y a beaucoup, comme je disais, de vers. Il y a beaucoup de ces vers. Vers V2RES, hein, transparent. Des couches par-dessus d'autres couches. Plus vous regardez, plus vous voyez. C'est comme ça que je vois le monde aujourd'hui. Si je voulais, je pourrais te dire qui était là avant. Il pointe son bras vers la porte de mon appartement à Paris. Je pourrais demander au mur. Je pourrais voir derrière ce temps de maintenant. Tu peux regarder en arrière et voir ce qui était avant, en regardant avec ton mungun, et ne pas voir ce verre, mais voir les autres en dessous, dedans, dans la matière. C'est un peu difficile de l'expliquer. La meilleure façon de dire, c'est qu'il y a une série de verres ou parois en verre. Alors, je viens de voir sur Facebook hier que des chercheurs à Lausanne viennent d'annoncer qu'ils ont fait des modélisations du cerveau qui leur permettent de visualiser que le cerveau fonctionne à l'heure actuelle en 11 dimensions. Et donc, on ne peut pas le figurer dans notre univers à 3 dimensions, mais en topologie, ils en sont à 11 dimensions. Et c'est dans la minusculité de la multitude des liens qui se passent au niveau de notre cerveau. Et d'une certaine façon, ça fait écho avec ce qu'il est en train de dire ici. Hein ? Oui, je crois en sa sensibilité. Je pourrais le dire, mais c'est ma fille, Millary Barker, qui a 25 ans et dont la grand-mère était une aborigène de la côte nord-ouest, qui va parler maintenant. Oui, je crois en sa sensibilité, son ressenti, son intuition, son don, à l'ENS. Une écoute qui a été sculptée par un vécu, une vie, un titre au sein de son groupe, sa famille, une responsabilité pesante. Mais sa réalité n'est pas la même pour tout le monde. Ce qui ne décrédibilise pas ce qu'il voit ou ressent. Cette présence non tangible, tel un mirage qui danse avec notre réalité, n'est pas ressentie de la même façon pour tout le monde, parfois même jamais perçue. Un monde métaphysique qui se révèle souvent en énigme, des morceaux à connecter en un réseau et qui utilise notre propre sensibilité et référence pour se manifester à un moment presque non hasardeux. Millary continue. Notre désir ou non de poursuivre, de croire ou de suivre cette manifestation peut tout à fait en changer son sens originel. Le fait de se construire un réseau spirituel et culturel tressé avec une tradition de plus de 60 000 ans donne un outil, une connaissance, une formation à l'interprétation de ces témoignages, ces événements non explicables, qui se disent sans explication ou impossibles. Tel que raconté par Lenz, continue Millary, l'histoire de l'homme qui se fait prendre plusieurs années par les esprits femmes du Bush aurait pu être interprétée différemment, par une influence de la culture ou non, comme par exemple le même événement d'un enlèvement par un appel de retour à la nature, sensuel ou non, et donc pas forcément charnel. Millary commente ici le fait que chez tous les groupes du désert, des hommes et des femmes disparaissent pendant quelques jours, des semaines, voire des années. Les aborigènes disent que ces hommes et femmes ont été séduits par des esprits, qui les enlèvent par désir. Une telle histoire est arrivée en décembre 2015 à une femme Walpiri de la Djamanou, grand-mère de nombreux petits-enfants, très dévouée à promouvoir la culture traditionnelle. Elle est venue peindre et danser en France et en Pologne en 2010. Depuis la mort de son mari, important leader rituel et artiste, Jimmy Robertson Jampi Jimpa, elle s'est aussi investie dans l'église baptiste qui célèbre les offices en Walpiri. Denise Napangardi m'a raconté que tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle est sortie d'un cercle de jeux de cartes pour répondre au téléphone, puis se retrouver en brousse sans pouvoir revenir sur ses pas, bien qu'elle connaisse très bien la brousse. On l'a retrouvée désemparée après des jours de recherche, tout près de la réserve, mais elle était comme empêchée de s'approcher plus près. Les femmes, en rapportant cette histoire, insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'un rapt par un esprit amoureux. Lenz parle d'un cousin, une autre histoire, qui pendant 5 ans se languissait pour une femme esprit, allant toujours dans le bush pour l'attendre. Et un autre homme qui revint de la brousse après 40 ans, passé avec une femme esprit que les aborigènes appellent femme sauvage. Ils ont aussi leur sauvage, mais c'est les esprits. Ces histoires ne sont pas sans rappeler les succubes ou incubes des traditions européennes anciennes qui, prenant la forme d'hommes ou de femmes, viennent vous séduire en rêve. Comme tous les autres aborigènes que j'ai rencontrés, Lynn Sullivan précise « Nous croyons que nos rêves sont plus réels que la réalité. Nous prenons ces rêves très au sérieux. J'ai juste vu ce Goana, donc ce lézard en rêve, alors cet homme, il doit aller là et chercher ça. Tel autre homme a vu un kangourou à tel endroit, il doit y aller l'attraper. Alors on dit « Prenez deux hommes avec vous et on se retrouve ici ce soir après la chasse. » Et cela se passe toujours comme ça. On revient avec ce qu'on a rêvé. Et si quelqu'un est malade, on va en rêver aussi, on le prend au sérieux. La personne pourrait être en train de boire une tasse de thé tout à fait en forme, mais nous disons, nous avons rêvé, tu étais malade dans tel ou tel lieu, alors on y va et on touche le ou la malade, on les soigne. Et ils écoutent. Nous pensons tous la même chose, nous croyons dans les rêves. Nous pensons que l'esprit quitte le corps parfois et qu'il faut faire appel à un gankari, un guérisseur, un cleverman, pour le ramener dans cette personne. et on assoit toujours la personne. On lui donne du thé ou de l'eau pour la faire se sentir un peu mieux, faire associer à nouveau son esprit avec son corps. Et on la fume, on fait une fumigation, un peu plus, puis elle est bien alors. Quand nous la chantons, elle est bien. Mais c'est rusé ce pouvoir, un peu retors, tricky en anglais. C'est comme ça, si on croit que la nuit, l'esprit quitte le corps pour voyager, il peut voyager. Si tu as un gankar et tu peux voyager et parler aux membres de ta famille dans un autre endroit, très loin, tu sais, et ils peuvent te voir, ils peuvent t'entendre, juste comme de jour, et ensuite tu reviens dans ton corps. Mais parfois, les gens normaux rêvent, et comme tu dis, ils sont réveillés trop vite, alors leur esprit est perturbé et on doit les faire se sentir mieux. Mais un gankar, il peut utiliser cette capacité pour aider à soigner les gens aussi. Lorsque quelqu'un est malade très loin, il peut se déplacer et les soigner. Et les gens demandent parfois, tu peux ? Ils téléphonent, les gens. Tu peux venir ? Tu peux venir en esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de portables. Peux-tu venir ici me voir, s'il te plaît ? J'en ai vu beaucoup de prétendus Ngankari, mais je pense que c'est des Kurdaïcha, des sorciers. Et c'est ceux qui portent des sandales à plumes d'émeu pour ne pas laisser de traces et qui marchent en marche arrière. Je les ai vus utiliser leur portable pour faire de la sorcellerie. Ils obtiennent l'image de quelqu'un et ils la chantent. Et ils la percent avec un couteau et ils la chantent. Lens montre le geste. Et ils disent qu'ils vont tuer cette personne. Je l'ai vu arriver. Alors aujourd'hui, la société change complètement. Ils prennent une photo de quelqu'un, ils l'emmènent et la chantent. Avant, ils avaient l'habitude de dessiner au sol un symbole pour les personnes visées et ils chantaient cette image. Ils utilisent aussi les vêtements des gens pour attraper des gens. Ils utilisent la sueur du corps de la personne dans tous ses vêtements. Ils l'attrapent avec ça, ils chantent cette sueur et ils la brûlent. Les techniques de la sorcellerie aborigène ne sont pas sans évoquer des pratiques anciennes courantes en Europe. Ce qui est à retenir, c'est que le même pouvoir permet de rendre malade et de soigner. Pouvoir de traverser la matière. J'ai raconté dans Les rêveurs du désert la cure que j'ai subie où un chaman Welpiri a sucé au niveau de ma hanche gauche et craché un caillot de sang, ce qui m'a remis sur pied alors que je n'arrivais plus à marcher. Selon lui, j'avais été attrapée par des esprits. La succion du mal et son crachat sous forme matérielle se retrouvent dans diverses traditions chamaniques du monde. Lens raconte une autre intervention sur une jeune fille ensorcelée qui allait mourir. Elle avait maigri jusqu'aux os et tout. Quand j'ai appris en rentrant de la chasse un jour, j'ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille ?»« Non, elle est attrapée, personne ne l'approche plus. » Je savais qu'il l'avait laissée comme pour morte, tu sais, les autres, les humains. Alors je lui ai dit « Viens là !» J'ai mis ma main à l'intérieur d'elle. À l'intérieur d'elle. Je ne peux l'expliquer comment je l'ai fait. Vous avez vu peut-être ce célèbre chirurgien qui opère de cette façon-là ? J'ai juste fait comme ça, attraper son rein. Je l'ai attrapé, il y avait une pierre dans son rein, je pouvais la sentir, et j'ai dit à l'autre gars, viens ici, mets ta main derrière et je vais pousser cette pierre dans ta main. Quand je la jette dans ta main, tiens-la fort, et je ferai le tour pour attraper la pierre et la tirer. Il tremblait comme une feuille, le gars qui devait l'aider. Et j'ai dit, tu dois être Cleverman. Son père était censé être Cleverman, guérisseur. Mais son père est parti dans la maison, ne voulant pas en sortir, et ce jeune tremblait. Et j'ai dit, ne t'en fais pas. Je vais pousser à travers le corps. Len s'avance sa main vers la caméra. J'ai réussi à attraper autour pour saisir et tirer la pierre du rein, le calcul rénal. Et donc, on fait appel à ce genre de guérisseurs dans les hôpitaux en Australie. Pas assez, mais ça a commencé dans les années 50. À vrai dire, moins maintenant que dans les années 50, parce qu'il y a moins de chamans aussi. Et cette fille toussait tout ce sang. Mais alors qu'elle toussait, je lui ai dit « C'est parti maintenant, c'est parti !» Elle s'est levée et se sentait mieux. Je ne peux expliquer comment ça s'est passé. Selon Len Sullivan, le Cleverman, quand on ne craint pas les esprits et qu'on prend le temps de les écouter et de leur parler, alors ils nous viennent en aide. Ils nous permettent de traverser le corps et les murs, de détourner l'opposition entre dedans et dehors. Ce n'est pas une figure de l'esprit. Len dit qu'il voit à travers la peau, non pas avec ses yeux, mais son pouvoir de guérison. Lui, il dit Mangun, d'autres aborigènes disent Mapan, Gangari, etc. Pouvoir que tous les chamans australiens donnent à des pierres cristallines qui sont censées entrer dans leur corps lors de l'initiation, parfois à remplacer leurs organes. Ces cristaux permettent aux chamans à la fois de voir par transparence et d'aller dans le corps du patient pour en retirer le mal. Comme Lens, qui à la place des organes du corps, voit un réseau de lignes colorées avec un endroit qui change de couleur quand il y met la main. ce qui lui indique où et quand il doit tirer pour sortir le mal, comme une ligne de force qui va rétablir la circulation, perturber des câbles dans le corps, câbles qui sont reliés à d'autres lignes de la Terre et de ses formes vivantes. C'est ça qui est important. La non-opposition entre dedans et dehors, la traversée de la peau, c'est le fait que les câbles dans le corps sont en continuité avec les câbles de la Terre et de l'espace. Je l'ai vu faire plusieurs fois. C'est impressionnant. Quelque chose se passe, difficile à décrire. Les personnes soignées et certains témoins le ressentent aussi. Ils tirent sans même toucher le corps et libèrent comme une forte énergie qui peut affecter d'autres en chemin. C'est-à-dire qu'on sent comme un... parfois même un bruit cristallin, justement. Lens a soigné beaucoup de personnes dans sa communauté du désert Boulia et ailleurs, notamment sur la côte est de la ville de Townsville, où il est allé faire des études en 2004. Il fut souvent sollicité pour soigner des aborigènes incarcérés qui redoutaient plus encore la vengeance des esprits que la violence souvent arbitraire du système policier, carcéral, voire judiciaire. Au festival de chamanisme de Génac, des dizaines de personnes faisaient queue tous les jours pour qu'il les examine. Je lui ai demandé, mais là-bas, à Génac, pendant ces 4 jours, tu as traité beaucoup de personnes, comment pouvais-tu le faire? D'où as-tu tiré ta force? Lens répondit, je me suis sentie vraiment peinée pour eux. Et oui, quand je soignais dans la tente, je suis partie dans un genre de transe. Je ne regarde pas la personne que je touche, car je vois mon Mangun. Mangun veut dire pouvoir. Je vois toujours avec ce pouvoir. Alors quand je touche, je ne vois pas le visage. Je ne vois pas leur maladie ni rien. Lens met ses mains en avant et les tourne. J'ai juste ce sentiment profond, je ressens là où c'est chaud. Hein? Donc, et quand il opère, Isabelle qui était avec nous l'a vu faire, c'est chaud dans ses mains, en dehors du corps. Et alors je referme les yeux et je vois cette rougeur. Et ensuite je tire. Et comme, c'est comme ça que ça marche toujours. Et ça sort juste, ce qui est là. J'ai été choquée parfois, dit-il. Je me retrouve avec une ficelle de cheveux dans la main. Des os, des échardes, des bouts de bois. Beaucoup de choses différentes sont sorties. Je ne peux pas expliquer, ça arrive, c'est tout. Mais parfois j'entre comme en transe. Et quand j'étais, tu as peut-être remarqué, à genoux, j'ai pu me balancer un peu. C'est là que je suis dans cette transe. J'entre dans cet état comme je chante, quand je chante quelqu'un. Mais surtout, ça vient quand je soigne maintenant. Alors j'étais en transe, aussi rapidement que les gens m'étaient présentés. J'étais prêt à les soigner, prêt à en attraper un autre. Mais alors mon corps commence à devenir faible. Et je commence à ralentir, à respirer lourdement, à manquer d'air. Et mes bras deviennent lourds, mon corps, ma tête et tout. Parfois, j'attrape un mal de tête. Après avoir retiré quelque chose d'une personne, je l'absorbe. Je deviens lourd et je dois me laver les bras, me rafraîchir. Quand tu retires un poison, tu dois prendre un peu d'eau sur toi-même. Si je n'ai pas d'eau, je mets de la terre sur mes mains et c'est ce que je fais, mettre de la terre pour essuyer la maladie, avant de toucher une autre personne. Quand tu touches les gens aussi, tu as comme une vision de ce qu'ils ont fait pour tomber malade. Parfois, tu peux leur expliquer, retracer leurs pas. Ou, d'une certaine façon, repay, rembourser, comme certaines personnes que j'ai touchées. J'ai pu leur dire, vous devez mettre de la viande la nuit, pour les esprits ou des trucs comme ça, mettre de l'eau, et ça va les récompenser. Je pense toujours que plus nous faisons de mal à la terre, plus malades nous sommes. Si nous prenons soin de la terre, nous prenons soin de nous, et la terre prendra soin de nous aussi. Prendre soin, look after. Nous sommes plus forts ainsi. Mais si vous ne prenez pas soin de la terre, tu tombes malade. Si vous allez dans un endroit, vous l'abîmez ou coupez un arbre ou quelque chose comme ça, alors vous serez malade à cause de cela. Nous devons toujours repayer avec une part de nous-mêmes. Nous devons repayer avec une part de nous-mêmes. Nous devons toujours rendre aux esprits, pas seulement les esprits de la terre, mais les esprits qui ont marché sur cette terre. Nous devons les compenser, repay. Avec un peu de notre santé. Je fais toujours attention à cela. Beaucoup de guérisseurs Nankari perdent leur capacité de soigner. J'ai remarqué car sur ma terre, il y avait 5 guérisseurs, il n'en reste plus qu'un maintenant et moi. Et l'autre ancien, il demande de l'argent aux gens. J'ai dit, on ne peut pas demander un paiement. Car ce que nous avons à faire, c'est donner. Ce que nous faisons est un don qui nous a été donné par quelque chose de spirituel. La logique de l'alliance entre humains, non-humains et à l'égard des différents lieux est celle d'une circulation attentionnée par don contre don. Un principe de dette ouverte, ce que les aborigènes appellent le payback, le remboursement, la compensation ou encore la réparation. Il s'agit toujours de réparer dans l'alliance, source du soin, tant des acteurs que du milieu qui les traverse. L'alliance entre tout ce qui existe est conditionnée par des alliances toujours à renouveler, rituellement avec les esprits de la terre. C'est ce qui anime l'attachement à la terre. Mais ces esprits ne vivent pas que dans la terre, ils habitent aussi des dimensions parallèles que l'on peut explorer en rêve. Certains aborigènes comparent les esprits ancestraux du dreaming à des formes de vie extraterrestres qui seraient venues semer des images fortes sur la Terre comme un laboratoire où toutes ces formes virtuelles de vie ne cessent de se métamorphoser. C'est leur façon contemporaine de traduire la topologie de l'espace-temps des rêves où l'infraterrestre des esprits de la Terre rejoint l'extraterrestre qui aspire les esprits des morts. Guattari appelait à traverser l'opposition entre esprit et matière. Je n'ai pas précisé les esprits des morts. Quand quelqu'un a vécu une vie longue, à la mort, son esprit est emporté au-delà des galaxies des nuages de Magellan, c'est-à-dire au-delà du système de la Voie lactée. Guattari appelait à traverser l'opposition entre esprit et matière. Émergence arrimée au territoire collectif, universaux transcendants, immanence processuelle. Ce sont trois modalités de praxis et de subjectivation qui spécifient trois types d'agencement d'énonciation, qui sont le fait aussi bien de la psyché, des sociétés humaines, du monde vivant, des espèces machiniques et, en dernière analyse, du cosmos lui-même. Un tel élargissement transversaliste de l'énonciation devrait conduire, dit-il, Guattari, à la levée du rideau de fer ontologique, selon l'expression de Pierre Lévy qu'il utilise ici, que la tradition philosophique a établie entre l'esprit et la matière. Guattari continue dans Chaosmos, l'établissement d'un tel pont transversaliste amène à postuler l'existence d'un certain type d'entité habitant à la fois les deux domaines, donc l'esprit et la matière, de telle sorte que les incorporels de valeur et de virtualité se voit conférer une épaisseur ontologique de plein pied avec celle des objets sertis dans des coordonnées énergético-spatio-temporelles qu'on connaît sur Terre. Alors, je ne sais pas, pour le temps, j'ai autre chose à dire encore. Que voulez-vous? Ou vous préférez des questions? Non? On continue? Comment réparer la Terre? Une récente grande rencontre à l'UNESCO organisée par Nathalie Blanc sur les humanités environnementales et les nouveaux matérialismes, sous titre Les éthiques de décolonisation de la nature et de la culture, annoncée dans le programme. Les nouveaux concepts de la matière vivante, en particulier dans le travail de Manuel Delanda, dérangent les distinctions conventionnelles entre la matière et la vie, l'inorganique et l'organique, l'objet passif et le sujet actif. Par exemple, dans le réalisme agentiel de Karen Barad, l'agentivité matérielle ne privilégie pas l'humain. Tout comme pour Jeanne Bennett, le pouvoir de la chose met l'emphase sur la base matérielle et la parenté de toute chose, indépendamment de leur statut, humain, animal, végétal ou minéral. Donc ça, c'est la présentation de cette rencontre. Je dis, si les nouveaux matérialismes refusent l'anthropocentrisme, pour ma part, inspiré par les aborigènes, la parenté entre humain, animal, végétal ou minéral n'est pas un modèle d'équivalence, et vous aurez compris pourquoi maintenant. Mais au contraire, un modèle de différenciation de position relationnelle. Différence qui n'implique pas nécessairement de la domination, mais s'inscrive souvent dans des négociations d'alliances et des tensions de conflits possibles et inévitables. En ce sens, on ne peut pas vraiment synthétiser le totémisme australien en une ontologie de la continuité généralisée telle que proposée par Descola dans Part de la nature et culture. Je m'en suis expliquée ailleurs et je n'en dirai pas plus. À ce colloque de l'UNESCO, Rosie Braidotti présenta sa théorie critique post-humaine qui, partant de philosophie féministe ou post-coloniale, appelle à déplacer la centralité de l'individu du tournant post-humain et post-anthropocène en s'opposant au tournant ontologique de la tour et d'autres. Braille Doty, qui la connaît? Vous avez jamais entendu parler d'elle? Non? Bon. Braille Doty part en guerre contre le bios en tant que vie matérielle et discursive, l'homme, anthropos. Elle se révolte contre la prédominance de l'humain, plutôt mâle et surtout blanc, ou en tout cas nanti, qui, en inventant la scène pluridisciplinaire de l'anthropocène, s'est autodéclarée comme force géologique. Je suis moi aussi critique de cette tendance depuis longtemps. Braille Doty, contre le bios anthropocentré, propose Zoé, le continuum matérialiste, un réseau entrelacé de matières vivantes humaines et non humaines, et nous invite à suivre Deleuze, c'est elle qui parle, pour penser le post-humain comme à la fois l'enregistrement de ce qui cesse d'être, l'actuel, et la graine de ce qui est dans le processus de devenir, le virtuel. Un processus multidirectionnel et non une opposition binaire. Complexité qu'elle dit aborder au future past, traduit par futur antérieur. Pour Braille Doty, le post-humain ne signifie pas une perte de la responsabilité, de la transparence, c'est comme ça que je traduis accountability, cognitive et éthique, mais plutôt une opportunité pour refondre la subjectivité en direction d'une pratique affirmative. C'est ça son mot-clé, l'affirmation. Néo-matérialiste, ce qu'elle appelle l'éthique affirmative du sujet post-humain. Avec quatre urgences pour elle. L'amour du destin comme pragmatique de l'affirmation. Amor fati. Vivre à la hauteur des intensités de la vie, être digne de tout ce qui nous arrive, vivre notre capacité partagée d'affecter et être affecté. En écho à Édouard Glissant, elle, Braille Doty, qui contre l'affirmation essentialiste des identités aux généalogies absolutistes, nationalistes et racistes, appelait, Glissant, une relation éthique, non pas du ressentiment et de la résignation, mais de l'affirmation positive, Braille Doty soutient ce type d'affirmation depuis au moins 10 ans, comme, je la cite, dans ce texte ancien, « un geste d'affirmation de l'espoir, au sens d'affirmer la possibilité de bouger par-delà la vanité des effets, de la douleur, de la blessure, de l'injustice. » Un geste d'affirmation de l'espoir. C'est un geste de déplacement de la peine, déplacement, qui contredit complètement la logique jumelle, dit-elle, des revendications et de la compensation. Alors voilà, là j'ai un problème. L'affirmation de l'espoir, selon Braille Doty, me convainc d'autant plus que ma propre démarche a été définie, par exemple, par Genosco comme micropolitique de l'espoir. Mais je suis gênée par le rejet de Rosie Braille Doty de ce qu'elle appelle la logique jumelle des revendications et de la compensation. J'ai en effet vu pendant 38 ans le processus très ambigu des revendications territoriales aborigènes pour la reconnaissance de leurs droits traditionnels sur leurs terres, dont ils ont été spoliés par le processus colonial jusqu'à aujourd'hui, où pèse encore, enfin à nouveau, la menace de fermer leur communauté pour les pousser à aller vivre en ville comme tout le monde. C'est-à-dire, pas vraiment comme tout le monde. Alors que l'État reformule sans cesse les contraintes légales pour réduire la capacité d'action des autochtones en Australie ou ailleurs, la revendication d'une souveraineté sur leurs terres est au cœur de toute leur lutte pour affirmer de manière positive leur manière propre de valoriser des devenirs multiples. Il reste qu'il y a différentes sortes de revendications et demandes de compensation. Et la question est problématique. La revendication des terres en justice a abouti à certaines restitutions en termes de longues procédures juridiques, mais selon des modalités qui donnent rarement un pouvoir souverain aux propriétaires traditionnels. Dans les années 80, les communautés du territoire du Nord ont eu le veto de l'usage souterrain des terres restituées. Ils ont souvent accepté que des compagnies explorent ces terres à la recherche d'or ou autres ressources minières en échange de royalties, donc de compensation monétaire que les aborigènes ont investi dans leur priorité d'un mode de vie différent de celui de la majorité australienne. Dès le début, les anciens ont manifesté des réserves quant à la viabilité des nappes phréatiques du désert si on creusait trop de puits pour explorer. Mais l'ambiance générale spéculait à l'époque, dans les années 80, sur l'autarcie économique où les compensations monétaires étaient bien vues, à la fois pour gagner une autonomie vis-à-vis de l'État et investir dans des projets communautaires. Aujourd'hui, la plupart des anciens que j'ai connus sont décédés. À la Majamanu, par exemple, sur une population de 800 personnes, il reste une dizaine de femmes et une poignée d'hommes qui ont connu le premier contact avec les Blancs et révolutionné par leur peinture, sur toile, l'histoire mondiale de l'art en s'imposant dans l'art contemporain plutôt que l'art dit primitif. Âgés de plus de 80 ans, certains ne peuvent plus peindre, faute de trembler et d'être aveugles. Tous sont pris en charge par un centre où des femmes Walpiri vont les chercher pour la journée, s'ils ont envie, et leur préparent des repas qu'elles leur amènent à domicile deux fois par jour. Un vrai service de care qui répond à la cruauté des années 80 et 90 où l'administration australienne forçait les vieux à quitter la communauté pour mourir dans des centres de retraite en ville. Mais la plupart de ces Walpiri si attentionnés à leurs anciens se sont convertis au christianisme. Toutes les églises se disputent les aborigènes, comme tous les autochtones du monde d'ailleurs. Les Walpiri sont plutôt baptistes, tout en chantant dans leur langue une interprétation rêvée de la Bible et en peignant des croix sur la poitrine des femmes au sein nu dans l'église. Comme en Amérique latine, et ailleurs en Afrique et dans les îles du Pacifique, l'évangélisme a le vent en poupe. Il reconnaît une forme de transe spirituelle, mais dans une véritable guerre avec les esprits supposés diaboliques et démoniaques des autres religions. Le christianisme a toujours gardé une part cachée de l'inquisition chrétienne, consistant à former certains de ses membres à l'exorcisme, qui par définition reconnaît l'existence de la possession par les esprits. Mais pourquoi penser les esprits de cette manière toujours négative, nocive, dangereuse ? Là, c'est moi qui parle, mais vous avez bien vu ce que Lenz disait. Un ancien chaman Walpiri qui a failli mourir d'une crise cardiaque m'a dit qu'il avait trop peur des esprits maintenant et que seul Jésus pouvait le protéger de leurs attaques. Les autres Walpiri disent qu'il a perdu la tête. Mais il reste que certains, des plus fervents défenseurs des pratiques rituelles aborigènes, se disent aussi chrétiens et organisent des funérailles à l'église. Ce qui n'empêche pas que d'autres rituels funéraires pré-chrétiens continuent. Il y a 30 ans, les rares Walpiri convertis disaient que traduire la Bible en Walpiri devrait permettre aux dieux chrétiens de comprendre les dreamings et l'attachement des hommes et des femmes à la terre pour qu'ils puissent les récupérer. Eux, les aborigènes. Ouais, on revient à l'histoire du pouvoir du livre, enfin de l'écrit. Le pouvoir des mots. Des mots qui pensent et rêvent pour les Walpiri. Donc s'ils sont tracés sur le papier, ils auront un affect et un effet. Les Walpiri ont récupéré un grand territoire ancestral. 600 km nord-sud, 300 km est-ouest pour 4000 personnes. Mais tous doivent démontrer, comme ailleurs en Australie, leur lien totémique à la terre pour justifier des compensations monétaires à chaque nouvelle exploration minière. Hein, c'est des dizaines de réunions tous les mois. Or, aujourd'hui, dans leur désert Tanami, à l'exploration de l'or a succédé celle du gaz de schiste et de l'uranium que les compagnies recherchent. Les Walpiri s'entre-déchirent entre une majorité qui ne veut pas de ces industries extractives destructives, non seulement de la terre mais du devenir de tout ce qui existe, et une minorité qui soutient ces développements. Partout en Australie, certains aborigènes souhaitent les mines par avidité, d'autres, toujours avec le même raisonnement, par souci d'une tentative d'autonomie économique qui répondrait au désastre social et mental qui affectent une partie de leur population désœuvrée. Constamment confrontés à la dépossession de leurs terres, l'aliénation bureaucratique, les violences policières parfois meurtrières et la criminalisation de leurs moindres gestes, beaucoup, comme par exemple conduire sans permis, la majorité des jeunes aborigènes n'ont pas de permis, donc vont tout de suite en prison dès qu'ils sont attrapés par un flic. Beaucoup d'aborigènes s'autodétruisent dans l'alcool et la drogue, alors que les enfants sniffent du pétrole et se suicident. En Australie, comme en Guyane ou au Brésil. Sur la côte nord-est du Pacifique, l'île australienne Palm Island a fait la une des journaux en 2004 et les années qui suivirent. Une semaine après la mort violente en garde à vue d'un aborigène arrêté pour ivresse, la station de police a brûlé. J'ai raconté dans Guerrier pour la paix l'enquête sur la mort en garde à vue et l'instruction de la trentaine d'aborigènes arrêtés pour cet incendie. Le livre comprenait deux chapitres de transcription d'entretien avec l'ex-Watton aborigène de Lille accusé d'avoir mené l'émeute. Notre livre devait être vérifié par ses avocats avant publication. Et ils me demandèrent d'enlever, les avocats, mon argument sur la désobéissance civile pour la justice, qui d'après eux pouvait nuire à sa défense. L'ex-Watton fut condamné à 6 ans de prison et libéré en 2010 avec sursis, mais privé du droit de parler en public pendant 4 ans. Il bénéficia à 2 reprises de clauses exceptionnelles pour s'exprimer en public. À chaque fois, il a fait un tabac dans les médias, et cette fois-ci en défendant le principe de la désobéissance civile. Lors d'un colloque des droits de l'homme et lorsque ses avocats lancèrent une procédure de recours collectif, class action, pour remettre en question la légitimité de l'intervention de la brigade d'urgence antiterroriste qui avait été téléportée sur l'île par hélicoptère et qui avait forcé les portes d'une 30aine de foyers pour arrêter les manifestations aborigènes de la veille. C'était en 2004. En février 2017, 14 ans après ces événements, l'ex-Watton gagnait son recours contre la police. Une première historique qui invita beaucoup d'autres aborigènes à faire de même. Donc ça vient de se passer. L'ex reçut alors une compensation de 200 000 dollars qu'il choisit de mettre sur le compte de sa femme. Avant même d'arriver, l'argent était déjà alloué à l'achat de voitures pour les enfants. Il semblait qu'il s'agissait de dépenser cet argent au plus vite, à l'instar d'autres communautés où bien des aborigènes préfèrent jouer l'argent aux cartes, mais des millions, hein, qui viennent des mines, etc., et ne pas accumuler, comme par refus de la capitalisation. Il va sans dire que l'ex, visionnaire d'un autre monde où il n'y aurait pas 2 lois, une pour les blancs et une pour les noirs, l'argent n'est pas une vraie compensation. Hein, ce qui est appelé en anglais compensation. Pour lui, l'enjeu est de changer la manière dont les communautés vivent, se réapproprier la gestion de leurs affaires et se libérer du contrôle de l'État. Même s'il a utilisé les procédures de l'État. La vraie compensation serait cette liberté comme forme de réparation pour tous les abus de la colonisation. Massacres, enlèvement des enfants métis dans des institutions disciplinaires pour les faire travailler sans salaire et déportation des rebelles dans des réserves de punition comme Palm Island, son île. Il y avait des gens de 40 langues différentes déportés, 4000 personnes. En ce sens, il serait maladroit de rejeter comme des émotions négatives les revendications de compensation pour les effets transgénérationnels de tout le mal fait aux enfants autochtones d'Australie ou des Amériques, y compris de la Guyane, séparés de leurs parents et maltraités dans des centres, de la Guyane, de la Polynésie française, de la Calédonie, Nouvelle-Calédonie, etc. Et aussi les enfants irlandais ou écossais déportés de Liverpool dans des missions d'Australie où ils furent sexuellement abusés, ou encore des enfants métissés de l'île de la Réunion envoyés de force par l'État français travailler ici, dans la Creuse. Je parle de tout ça parce que tous ces groupes-là sont dans des procédures de demande de compensation aux États respectifs. On pourrait y ajouter les revendications actuelles des communautés sourdes. Et bien sûr, il y a le mouvement pour la réparation et la compensation des descendants des victimes du trafic d'esclaves déportés d'Afrique vers les Amériques. Partant du fait que l'esclavage a enrichi les colonies et les empires, et que les ressources africaines continuent d'enrichir les pays les plus riches, le chanteur Tiken Jafakoli, né en Côte d'Ivoire, chante que l'Afrique a déjà payé sa supposée dette actuelle. Dans cette logique, une forme de compensation pourrait consister en une levée de dette injuste imposée à l'Afrique ou à Haïti par le capitalisme mondial intégré, comme disait Félix à l'époque. La réparation, c'est aussi transformer des systèmes de valeurs pour prendre à la lettre le mouvement Black Lives Matter aux USA et d'autres pays qui se sont construits grâce au travail des esclaves et l'exploitation des migrants. Respecter leur vie et leur passé, par exemple, en renommant des bâtiments pour des monuments et des rues. Ça, c'est quelque chose de très fort, par exemple, en Afrique du Sud en ce moment, mais aussi ailleurs. Et surtout, restituer les ossements qui ont été volés aux quatre coins du monde et qui pourrissent sans pourrir dans bien d'institutions, pas seulement les musées aujourd'hui, mais dans les labos de génétique, hein, ainsi que les prélèvements de sang. une forme de compensation réparatrice des maux perpétrés contre tous les habitants de la Terre, et particulièrement les peuples autochtones, pourrait consister à arrêter les processus de destruction de la Terre et de sa biodiversité par des industries extractives et des énergies fossiles qui sont concentrées sur ces terres où ils vivent. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus là où ils vivent que nous qui en, que sur les terres, nos terres à nous et dont nous profitons. Le monde, hélas, multiplie les victimes de l'histoire à une vitesse accélérée, comme tous ces migrants fuyant la violence et la misère qui restent à nouveau l'esclavage ou la mort sur le chemin. La responsabilité éthique de répondre aux revendications de liberté et d'accueil de ces populations pourrait être d'inventer un système d'hospitalité globale, de nouvelles formes d'échanges planétaires pour réparer les maux du monde. Guattari, j'ai presque fini, appelé à créer les conditions d'émergence à l'occasion d'une réappropriation des ressorts de notre monde, d'un nomadisme existentiel aussi intense que celui des Indiens de l'Amérique précolombienne ou des Aborigènes d'Australie. Ça, c'est dans « Pratique écosophique et restauration de la cité subjective », dans le « Qu'est-ce que l'écosophie ?», le texte rassemblé par Nadeau. On peut dire qu'aujourd'hui, bien des personnes, dont les réfugiés demandeurs d'asile et ceux que j'appelle les réfugiés de l'intérieur, comme par exemple les aborigènes en Australie et autres populations minorisées, inventent, jour après jour, un nomadisme existentiel qui revendique le droit de s'installer dans des foyers mouvants. Leur affirmation est si intense, pour reprendre le terme de Braidotti, affirmation d'espoir, que les États répondent par une violence destructive pour empêcher que ces mouvements deviennent contagieux. L'enjeu de cette multiplicité de tentatives pour survivre est l'affirmation d'une force de vivre qui soutient une transformation nécessaire du monde. Ce qui est actualisé, c'est la violence des conflits et le flux des réfugiés, mais la cristallisation de toutes les menaces virtualise aussi d'autres possibles, de nouveaux agencements d'humains et de non-humains sur la Terre. Nous devons compenser, c'est-à-dire prendre soin et réparer le monde, comme dit Lenz, le Cleverman.